Jeudi 18 avril, Flic Secours. Je pars à la rencontre de la compagnie Le Berger en pleine période de création. Une journée complète, tout micro ouvert, entre jardin, cour, salle à manger et cuisine. En coulisses, la première du spectacle « on ne paie pas » approche. Les textes s'apprennent, les costumes s'ajustent et les guitares s'accordent. Dario Fo livre un théâtre épique et empathique, truffé de moments farcesques, énormes et imparables. Écoutez plutôt ces moments partagés avec Olivier Mellor, Marie-Laure Boggio, Mylène Guerriot, Stéphane Piazantin, Rémi Pousse, Vincent Tepernowski, Séverin Jagnard, Cyril Schmitt, Benoît André et Grégory Trouvel.
Soit 13h, on est d'accord, 13h là-bas.
Pourquoi plus tard à 13h20,
ça, 13h30, on va faire du riz là-bas.
On se met à manger.
Bon, on va faire un petit bout d'italienne quand même.
Oui, aussi.
Parce que je pense que Clémence, elle pourra mettre ça à un moment donné un peu en dessous et enfin, parler par-dessus. Il se décide vers 11h10 à faire une italienne. Et
c'est comme les reportages de la galinette cendrée. 6h. Rémi Pousse se lève. Il s'échauffe.
6h20, il se couche.
Non, c'était pas le moment.
Je sais pas si tu vas garder, hein. Tu t'enregistres tout.
Si,
là.
Si.
Ouais. Bah écoute, alors on va dire que des choses intéressantes.
On va essayer de
faire le tri, quoi.
Alors pour les ravigotti à la farfalle, c'est très simple. Vous prenez 2 œufs, un peu de crème fraîche.
Bon, allez.
On fait quoi?
Qu'est-ce qu'on fait? Celle de groupe.
Un truc conseil.
Celle de groupe.
Sinon, on va avoir l'air con.
Non, c'est bien. Ils sont à 15 jours de la création.
C'est tout bidon.
Des hésitations encore, à quelques moments, permettent aux comédiens de se reconcentrer.
C'est dans le groupe. Alors,
expliquer, parce que.
Mais faites la fin. Faites la fin, c'est là où vous êtes vraiment les meilleurs. C'est de la radio, ils vous verront pas lire, les gens. Oh, faire une italienne, ils récitent très vite le texte. Et les bruits de feuilles qu'on entend tourner, c'est pas du tout le texte qu'ils sont en train de lire. C'est ils prennent des notes. Merde.
Italien et spaghetti cadette. Marsigiano come presidente. Con l'autorario sempre ad Emanuele Strano.
J'ai plus des carottes, comme d'habitude. Non, mais on a. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait à manger aussi. Et puis. En général, comme on finit tard, on rentre tard, donc on se lève tard. Donc, voilà. C'est des horaires un peu décalés.
Là, il est midi moins 10.
Oui, faire à manger à midi moins 10. Non, c'est vrai, finalement, ça va. On n'est pas trop mauvais, ça va. C'est toute une organisation quand même. Parce qu'en fait, on est quelques-uns là au gîte. Et puis après, il y en a comme ceux qui habitent plus près, ils sont chez eux forcément. À Amiens ou Stéphanie, il habite à Vignacourt. Et donc quand on fait à manger le midi, c'est à manger pour une quinzaine de personnes. Quoi. C'est toujours un peu dégueulasse. Ça fait toujours un peu vieille cantine. Aujourd'hui, il y a des bonnes cantines. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Ici, on est dans un gîte, attention. C'est vrai. Ce qui est toujours étonnant, ce qu'on se disait hier, on arrive dans des gîtes et c'est toujours mieux que chez nous.
Tu fais à manger pour 15 personnes ?
Ouais.
Qui ça ?
Bah, tous les comédiens, tous les techniciens, bah, toute l'équipe, quoi. En tout, on est 15. C'est-à-dire, il y a 5 comédiens, 3 musiciens, l'administratrice, 2 scénos. la costumière, et puis Maxime de la com de com quand il est là, pour toi, pour voilà, pour les gens qui sont, enfin, y a des gens de passage des fois aussi, un truc un peu, voilà, hier on a eu la visite de René Lognon, qui est la visite du maire de Flic Secours, parce qu'on est à Flic Secours, les gens passent, voilà, c'est bien. C'est intéressant de. Enfin voilà. Parce que ça se passe naturellement, quoi. Qu'il n'y ait pas de trop de protocole. Moi je trouve ça c'est très bien. C'est une mairie communiste. Ça nous correspond, on va dire.
Un lien avec Dario Fo?
Ah oui, complètement. Enfin, je veux dire, le fait de monter une pièce de Dario Fo dans un territoire comme le Val de Nièvre, qui est aussi un territoire comme le nord de l'Italie, ou comme Hirson, par exemple, avec qui on bosse souvent à l'est de l'Aisne. C'est des territoires qui ont été des bastions industriels, et puis tout s'est arrêté au début du XXe. Il y avait les usines Saint-Frère à Flic Secours, à Berthaucourt, etc. Et aujourd'hui, l'activité est vraiment très réduite, même s'il y a plein d'autres choses qui se mettent en place, il y a une zone d'activité. Je sais que monsieur le maire de Flic Secours prépare une patinoire, incroyable mais vraie. Une vraie, hein. Et enfin, le fait d'être dans un territoire comme ça, où forcément l'histoire de la pièce rejoint la grande histoire, la vraie histoire des gens, quoi. C'est-à-dire beaucoup de chômage, de fait beaucoup de pauvreté, de fait parfois beaucoup de malheurs, quoi, de toutes sortes. Enfin, il y a un moment où on a l'impression de rejoindre un peu la réalité, quoi, avec ces pièces-là, même si c'est une pièce qui a 40 ans. Aujourd'hui, c'est une pièce qui a été retraduite par les mêmes traducteurs, mais ils en ont fait une version un petit peu plus actuelle. Mais ça reste quand même très ancré dans les années de plomb en Italie, qu'il y a eu aussi en Europe, c'est-à-dire des soulèvements populaires spontanés, sans l'aide des syndicats, enfin pas de récupération au départ, vraiment des choses un petit peu étonnantes, quoi, des actes de désobéissance civile. La pièce, elle part vraiment d'un fait divers existant. C'est des femmes qui sortent du supermarché en payant le prix qu'elles veulent, ou en volant, parce que les prix augmentent tous les jours, mais voilà. Et ça, c'est aujourd'hui, on le voit, hein, les prix de l'essence, les prix de l'alimentation, des soins médicaux, enfin voilà, les problèmes qu'il y a actuellement en Europe, pas loin de chez nous, hein, en Grèce, au Portugal, en Espagne, et puis en Italie, là, en ce moment, en Italie, c'est quand même, c'est un peu compliqué, quoi. Ils cherchent un gouvernement. Berlusconi, je pense qu'il a quand même fait un certain nombre de dégâts irréparables. Voilà, donc on est un peu dans l'actualité. En même temps, c'est aussi simplement un spectacle, c'est aussi une comédie, c'est aussi une pièce très drôle qui a une vocation aussi de divertissement, quoi. Mais au divertissement au sens noble, comme disait Brecht, quoi, des divertissements un peu intelligents qui puissent toucher les gens sans les emmerder, voilà, sans que ça soit obscur, quoi. Voilà. Là, ils font une italienne, dans Dario Fo, ils se foutent de la gueule du pape, des hommes politiques, de plein de choses. Enfin, c'est une pièce libre, quoi. Dario Fo est encore vivant, c'est un type qui est maintenant très âgé, mais c'est un clown, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui a marqué toute la littérature italienne. Et puis, enfin, voilà, c'est leur Coluche, c'est leur... J'aime beaucoup de Django Edwards, enfin, c'est des trucs un peu comme ça. C'est à la fois une comédie sociale et aussi une énorme bouffonnerie avec des trucs de potache. Enfin, nous, on fait ça, des fois, on se dit c'est quand même too much, et non, c'est vraiment minimum ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, un truc comme ça.
J'ai trouvé ça dans ma remise. C'est surprenant à vous tout ça.
De la farine et des tomates en conserve.
Moi, je n'ai rien à voir avec ça.
Mais non, papa, ça peut pas être à nous tout ça.
Mais si, tout ça est à vous. J'ai vu Antonia sortir de la remise ce matin.
Antonia? Antonia!
C'est bon, je ne suis pas sourde. Oui, c'est à moi. C'est de la marchandise que j'ai achetée hier à prix réduit.
Au supermarché?
Oui. Mais je n'en ai payé que la moitié.
Et l'autre?
Fauché.
Fauché? Oui. Tu t'es mise à voler?
Oui.
Et toi aussi?
Oh. Oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai, c'est une menteuse. Elle n'a rien à voir là-dedans, elle m'a seulement aidée.
Je ne peux pas le croire, je deviens fou.
Calme-toi, Giovanni.
pour ce qui est de la marchandise volée, on ferait mieux de se taire.
Mais ça n'a rien à voir. Tu comprends pas? Notre cas est différent. Elle, elle a volé dans les magasins, la garce.
Oui, tu as raison. C'est une honte. C'est un déshonneur. Oui, je suis une garce. Et qui, en plus, joue avec tes sentiments paternels les plus délicats. Parce que, faut que tu le saches, l'enfant aussi, c'est du pifot, c'est pas vrai. Tiens, tu vois ici, dans mon faux ventre, je cachais du riz, des pâtes, de la farine.
Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu l'histoire de cette pièce ?
C'est une pièce qui se passe dans l'Italie des années 70. Alors, c'est deux couples, Antonia et Giovanni, qui habitent dans l'appartement qu'on voit sur scène. Et puis l'autre couple, c'est Margherita et Luigi. Le couple Antonia et Giovanni est un petit peu plus âgé. Ça commence par... Il y a une espèce de soulèvement populaire. Les gens vont... Les femmes, enfin c'est des femmes, les femmes vont au supermarché. Ce qu'on comprend en fait, c'est une journée où le supermarché vend des produits à prix réduit. Et tout à coup, les prix ont augmenté par rapport à ce que les gens avaient peut-être sur leur, tu sais, les petits magazines qu'on a. Enfin, j'imagine que c'est ça, quoi. Et quand ils arrivent au supermarché, en fait, c'est plus cher. Donc, il y a une espèce de soulèvement. Et il y a des ouvriers qui sont en train de manifester à côté qui disent « Mais attendez, là, on n'a qu'à partir avec la marchandise. » Et les femmes, elles disent « Ben, ok, d'accord. » Elles remplissent leur sac. Donc, il y a une partie de la marchandise qu'elles ont volée. Et une autre partie de la marchandise qu'elles ont achetée à prix réduit. Donc Antonia rencontre Margherita sur le chemin, parce qu'elles habitent dans le même immeuble. Et elle cache la marchandise sous le lit et dans le ventre, sous la robe de Margherita. Parce que Giovanni, le mari d'Antonia, arrive. Et il ne faut surtout pas qu'il découvre ça, parce que lui, c'est un légaliste. Enfin, il va être dans une rage terrible s'il s'aperçoit que sa femme a volé. Et voilà, et à partir de là, il y a une espèce de course-poursuite et de... on cache la marchandise, il ne faut pas que les autres découvrent. Enfin, ça ressemble un petit peu à du café-théâtre, à du vaudeville, et en même temps avec un fond social et politique. Et puis moi, ce que je trouve vraiment chouette aussi, c'est que ces deux couples-là, eh ben, ils s'aiment. Enfin, ce n'est pas si souvent que dans les pièces... ça se passe... Enfin, voilà, c'est pas le problème, quoi. Le problème, c'est vraiment un problème social et politique. Ces deux couples, en fait, c'est les gens qui sont encore solidaires. Enfin, ça parle... Il y a souvent ce mot-là, solidarité. Enfin, c'est des mots qu'on n'entend plus tellement, quoi. Et ça paraît un peu désuet. Mais justement, enfin, la pièce, elle traite de ça aussi. Du fait que toutes ces valeurs-là, au bout du compte, elles sont désuètes, elles sont obsolètes, comme dit le vieux, quoi.
Margherita, ouvre la fenêtre, on n'y voit rien. Quel déluge ! Non seulement tu es folle, mais tu es totalement inconsciente. Mais bon sang, on est là avec un mort sur les bras, tout ce que tu penses à faire, c'est déménager les pâtes et les riz. Mais ce sont les derniers voyages, et puis on n'a pas le choix, s'il est mort, il est mort. S'il est vivant, il va reprendre ses esprits et il courra en pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Eulalie en remerciement pour grâce obtenue, sa vue recouvrée et sa santé excellente. Tout en gros, c'est qu'il est.
Continue de plaisanter, tu vas voir ce qui va t'arriver.
Il ne peut rien nous arriver de pire. En 24 heures, on a tout eu. Viens m'aider à le soulever, on va le ranger.
Mais où ça?
Dans l'armoire.
Dans l'armoire.
Où veux-tu le mettre? Tu n'as jamais vu de film policier? Les morts, on les met toujours dans l'armoire. Attends, deux secondes, je vais aux toilettes, c'est urgent. Remplis ton ventre. Encore un ou deux voyages et ça sera terminé. Je suis épuisée.
Tu incarnes Antonia ?
Oui.
Quels sont les traits de caractère d'Antonia ?
Antonia, c'est une femme qui est très décidée. Ouais. Enfin, oui, je pense que c'est vraiment l'image que j'ai de... dans les films, dans les films italiens, on en voit beaucoup des femmes comme ça qui parlent fort, qui parlent vite, qui entraînent les choses. D'ailleurs, enfin, dans la pièce, c'est vraiment elle qui entraîne l'action, qui entraîne les autres, qui les fait sortir, qui les fait rentrer. Enfin, c'est quelqu'un aussi de sincère, et puis de fantasque aussi. Elle est tout le temps en train d'inventer des histoires. Ça va très vite dans sa tête. Elle est... Je pense que ça lui plaît vraiment de raconter des histoires. D'ailleurs, je pense que Olivier m'a dit ça plusieurs fois, qu'il avait pensé à moi, parce que moi, j'ai fait beaucoup de contes aussi. Donc ça lui plaisait aussi. D'ailleurs, il y a un petit moment conté avec l'histoire de Sainte-Eulalie. Voilà, c'était un peu pour se moquer de ça. Et en même temps, c'est une sorte de petit hommage aussi, quoi. Voilà, elle raconte des histoires. Ça, c'est
aussi une histoire de couple.
Oui, enfin, c'est une histoire de couple. Non, mais moi, je dirais pas ça, en fait. Je pense que c'est... ils sont quand même ensemble. Même tous les quatre, ils sont ensemble contre... Même pas contre la police, mais contre tous ceux qui les exploitent, les patrons, les gérants de supermarchés, le pouvoir, quoi. C'est même plus la police. Enfin, on dit la police, c'est les valets du pouvoir... Voilà. Non, mais ils restent quand même tous ensemble. Voilà. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu dis que c'est une histoire de couple. Je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y a rien de psychologique là-dedans. On ne manipule pas sur les sentiments. Enfin, en même temps, je dis ça, mais c'est marrant parce que tout à l'heure, ou hier, à la répète, je ne sais plus, j'ai compris un truc, c'est qu'à la toute fin, Luigi, parce que c'est une espèce de grosse farce quand même, mais... Luigi, il pense vraiment que sa femme est enceinte et il dit à un moment qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et il est vachement étonné qu'elle soit enceinte. Voilà. Et à la fin, il dit, mais alors, tout ça, c'était le ventre. Et je me suis dit, ben oui, mais c'est quand même important. Mais comme on est dans un autre niveau, comme on est au niveau de la farce, ça passe comme ça, quoi. On ne s'attarde pas là-dessus. On se dit, oh oui, le pauvre. Non, il y a plein d'autres trucs. On découvre que les choses sont cachées. On évacue les appartements. Il y a du bruit. Enfin, donc, on ne s'attarde pas sur ces choses-là, sur les choses psychologiques, quoi. C'est vraiment le propos de la pièce. C'est quand même ces gens qui essayent de rester ensemble, qui essayent de se serrer les coudes, mais qui se retrouvent tellement pris dans la mondialisation, enfin, dans les délocalisations, ça les dépasse et ça les... comme si ça les faisait exploser. Enfin, ça fait exploser leur belle fraternité, leur solidarité. Ils n'ont plus rien, quoi.
Che cresce piano piano, sentimi forte, andalo più vicino, se ci sta bene, sarà perché ti amo.
Qui a eu l'idée de ce répertoire musical ?
Olivier Mellor qui a eu cette très bonne idée. Au départ, il voulait faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire les intégrer dans la pièce. Et puis au final, rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué de mettre des morceaux dans la pièce sans casser le rythme, sans casser l'idée de la mise en scène. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire le contre-pied, on allait jouer avant. On avait aussi comme idée de mettre de la bombe odeur pizza, enfin voilà, d'accueillir le public dans une ambiance italienne, pour au final aller à contre-pied de ce que les gens, en tout cas ceux qui nous connaissent, s'attendent, c'est-à-dire nous retrouver plus tard dans la pièce, jouer les mêmes choses, où là en fait on n'y sera pas, à part de toutes petites apparitions. Voilà, c'était un petit pied de nez de ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait encore de la musique pendant la pièce. En fait, il y en aura relativement peu. Et puis naturellement, on s'est dit, on avait téléchargé chacun une dizaine de morceaux qui nous paraissaient être des morceaux reconnaissables parmi tous comme italiens. Puis on a fait une petite sélection de ces 8-là. Chacun a choisi ses 2-3 préférés.
Préférés dans le stéréotype, là, c'est vraiment...
Voilà, préférés dans le sens où la mélodie suffit à elle-même pour qu'on sache, ah oui, ça, effectivement, c'est un tube en italien. Puisqu'on chante pas vraiment italien, on sait noter les paroles, mais c'est plus de la phonétique que les paroles. Donc on écoute. On écrit ce qu'on entend. Il n'y en a aucun de nous trois qui parle italien, donc c'était un peu... c'était partir en guerre que de se dire on va chanter les vraies paroles avec l'accent et tout ça. Donc on s'est dit, ben voilà, tant qu'à faire, on chante ce qu'on entend. Les gens reconnaîtront de toute façon, puis pour chanter dam, 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 ça voilà, tout le monde connaît, c'est international. Alors à la base, on voulait tout jouer un peu nous-mêmes. Cyril, donc qui est plutôt batteur dans la vie, on s'était dit qu'on ferait un petit combo batterie machin. Et puis rapidement, on a eu l'idée de se tourner plutôt vers l'idée de groupe de marché, comme le font notamment les Sud-Américains, voilà, qui ont souvent une petite bande et puis qui jouent de la flûte de pan. Voilà, tout à fait. On s'est dit on va faire ça, mais version italienne. Du coup, on a fait des petites versions qui sonnent un petit peu midi, un petit peu cheap, parce que ça sonne toujours un petit peu ça. Et en même temps, on va essayer quand même de se prendre le plus au sérieux possible. Voilà, on a l'idée d'enregistrer une cassette audio pour vendre des cassettes audio. C'est vraiment le principe marché, quoi.
Un costume est prévu ?
Ouais, on sera costumé, ben... vert blanc rouge, hein. Vert blanc rouge, les lunettes, la moustache. Du coup, là, on est postiché de moustache là depuis une semaine pour s'y habituer, parce que logiquement, c'est pas notre coupe, c'est pas notre coupe de barbe. Mais là, on va voir les moustaches tous à l'italienne, quoi.
On a tous des tâches très définies. Hein, voilà, on n'est pas tous à décider. Ce n'est pas vraiment collectif. C'est plus une sorte d'effort commun pour pouvoir garder les moyens de faire les choses comme on veut les faire et pas les subir, quoi. Pas être obligé d'abaisser le nombre de comédiens dans une production parce que finalement, bon, on a plus assez d'argent pour en payer 15. Il faut réfléchir à ça, quoi. Aujourd'hui, je vois... il y a de moins en moins de décors, il y a de moins en moins de costumes, il y a de moins en moins de monde au plateau, les spectacles sont courts, les gens font Avignon pour aller chercher de la diffusion, ils reviennent sans diffusion, ou peu, ça coûte cher. Enfin, aujourd'hui, nous, on travaille peut-être à essayer de plus rentrer dans les cases, mais d'en faire des nouvelles, quoi. Alors, c'est très présomptueux, peut-être, hein, voilà. Mais si ça marche pas, les gens pourront se déchaîner. Il faut quand même essayer, quoi.
On peut pas savoir.
Les rendez-vous autour de la diffusion qu'on a à la cartoucherie, avec la Com de Pique, avec le Val-de-Nièvre, ça va inclure plusieurs compagnies, ça va... On ne sait pas ce qui va se passer autour de ça. Peut-être qu'on va finalement finir par fusionner avec des gens comme la compagnie Les Gosses, on en parle des fois avec Karine et Stéphane, de se dire on va faire des choses ensemble. On a déjà fait un spectacle avec la compagnie La Lune Bleue. Cyrano, on y est allé avec Les Gosses, avec la compagnie de La Sirène aussi. Là, on va rebosser avec la compagnie La Lune Bleue. Évidemment, c'est toujours un peu les mêmes, mais en même temps, c'est des rapprochements qui ont du sens. Il y a des comédiens qui migrent de compagnie à l'autre. On ne peut plus faire autrement. Moi, je pense que l'année 2014, en termes de financement public, ça va être difficile. Hein. On vient de recevoir la subvention de la ville d'Amiens. Je pense que c'est un bon indice sur le fait que ça va être difficile. Après, les gens font les choix et peuvent bosser comme ils l'entendent. Mais je pense que nous, moi, je viens d'avoir 40 ans. Je pense aussi qu'on a maintenant aussi une responsabilité vis-à-vis de notre boulot. On peut plus dire on est émergent. Désolé, on savait pas. On débute. Maintenant, non, on débute plus. Moi, je fais des stages au Conservatoire d'Amiens ou des stages AFDAS avec des jeunes comédiens qui attendent aussi qu'on leur donne quelque chose, notre petite expérience et notre sentiment aussi sur... moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité sur la jeunesse. C'est-à-dire que c'est ce que dit Dario Fo, d'ailleurs. Dans la pièce, il y a deux couples. Il y a un couple assez âgé, d'une petite cinquantaine d'années, et puis un couple très jeune qui vient de se marier, et c'est eux qui morflent, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas aussi. Le vieux couple dans la pièce, son appart, il est presque payé. Les autres ont un loyer. Et ils n'ont rien, et chômage, et tout ça. La nana, elle bosse dans un call center. Enfin, aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît bien. Hein. Donc nous, comme ça nous parle, on se dit comment on peut mettre ça en parallèle avec nos propres vies d'intermittents, de travailleurs... sinon précaire, en tout cas un peu voilà. Et aujourd'hui, quand on sait que voilà, aujourd'hui on bosse avec trois lieux, plus même le théâtre du Château à eux qui nous accueille l'an prochain pour une saison, on voit jusque 2016, c'est fabuleux, on est très content de ça.
Je touille actuellement
Je touille le poulet.
Tu parlais de cette thématique justement de Dario Fo, de la précarité et de la culture et de la société. Ça, c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte dans votre projet de résidence ici à Flixecours.
Ah oui, parce qu'à Flixecours, comme partout, mais c'est vrai que encore une fois, le Val de Niel, c'est un territoire qui a été marqué qui est encore marqué par le chômage, les entreprises qui ferment, d'autres qui ouvrent aussi. Il y en a. Il y a une zone d'activité qui, vraiment, notamment à Flixecours, commence à prendre de l'ampleur. Mais ils essayent de se relever de beaucoup d'années de difficultés, de désillusions. Voilà. Et nous, qui sommes d'une sensibilité assez proche, je crois, de celle qui dirige... le Val de Nièvre, de René Lognon, de Dominique Proyard, tout ça, on a envie d'apporter notre pierre. Attention, nous, on n'est pas des élus, on n'est pas politique, on n'a pas de solution pour la vie quotidienne des gens. Hein. On a une solution pour l'une de leurs soirées. Quoi. Voilà. Ça peut être sympa qu'ils viennent nous voir. Puis on a d'autres actions hein, avec les collèges. On va faire... un festival de films pour portables, par exemple, parce que tous les élèves aujourd'hui, ils ont un portable. Donc, on va faire des films pour portables. On va travailler avec des gens comme Mylène, qui a maintenant une maison de production. Allez voir l'épisode pilote de Michette sur Internet. Voilà, enfin, avec des gens. Voilà, on va faire aussi ce qu'on appelle des soirées surprises. C'est-à-dire, une fois tous les deux mois, les gens sauront qu'à telle heure, tel endroit et tel lieu et tel jour, il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Donc c'est pour un peu, voilà. Et puis après, nous, on va aussi, qu'est-ce qu'on a prévu ? Une web radio, hein, avec vous, avec Radio Campus. Voilà, vous pouvez, un petit jingle gratos pour vous, super. Mais voilà, pour essayer de aussi explorer les nouveaux médias et puis essayer de trouver aussi des solutions pour communiquer autour de ce qu'on fait sans que ça revienne trop cher. Internet, c'est une bonne solution. Tout le monde commence plus ou moins à l'avoir, faut en profiter. Genre, il y a plein de choses à faire avec ça. Et oui, avec le Val de Nièvre, ça a des résonances dans nos propres vies. Hein. Là, sur l'équipe du Dario Fo, on est très nombreux. Enfin, 80% est de Picard là, sur cette équipe. Donc il y a un moment, ça nous parle. Puis c'est un endroit qu'on connaît bien. Moi, j'ai beaucoup bossé avec la compagnie Les Gosses. On a joué dans beaucoup d'endroits. Les gens sont chaleureux. Les gens ont envie de s'en sortir, ont envie d'avoir du bonheur, mais c'est difficile d'avoir du bonheur parfois quand on est né du mauvais côté. C'est sûr que on parlait de George Clooney hier, il est peut-être moins galéré que. Et encore, je suis même pas sûr. Mais enfin, si, sûrement. En tout cas, maintenant ça va mieux. Il y a des gens pour qui c'est compliqué toute leur vie. Voilà. C'est de ces gens-là dont parle Dario Fo d'ailleurs. Hein. Les personnages dans la pièce ne sont pas de noms de famille, ils ont juste des prénoms. C'est des stéréotypes d'ouvriers. Va pas brûler ton câble de micro dans le poulet. Hein. Les gens savent pas, mais ça cuisine. Hein. Oui, je pense qu'on a vraiment envie de. Mais en même temps, voilà, on n'est pas. Moi, je suis pas un missionnaire. Hein. Je viens pas évangéliser les gens ou leur expliquer que c'est comme ça qu'il faut penser, voir les choses. Et ça, il faut le regarder. Ça, faut pas le regarder. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde. Les gens, ils font comme ils veulent. Voilà. C'est juste qu'ils aient le choix. Qu'ils peuvent venir voir du théâtre ou regarder la télé ou aller travailler avec l'école de musique à Vignacourt, qui est très active, avec qui on bosse aussi. Voilà. Avec les médiathèques, avec qui aussi on va travailler, parce qu'on va lire des dramatiques radio, des machins, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de projets qui seront faits avec les gens qui sont déjà là. Parce que c'est pas comme si on arrivait qu'il n'y avait rien, quoi. Moi, cette attitude-là m'exaspère vraiment. Enfin, des fois, on a l'impression... Il y a des gens qui arrivent dans des lieux, notamment des directeurs de lieux. D'un seul coup, ça y est, eux, ils ont un projet. Enfin, ils s'imaginent quoi, qu'avant, il n'y avait rien. Que les gens ne pensaient pas. Puis souvent, c'est souvent un projet contraire. C'est-à-dire que le public est ballotté entre plusieurs esthétiques sans jamais donner son avis. Et nous, je pense qu'à la compagnie, on fait attention à prendre en considération le public. Ouais. Voilà. Ça n'a rien de démago, hein, je pense, de dire ça. Il y a un moment, c'est important de jouer devant des gens. Hein. Nous, ça nous intéresse. On va aller tracter pour qu'il y ait du monde. On va faire circuler une bagnole avec un haut-parleur et tout. Moi, tout est bon pour qu'il y ait du monde. C'est le plus important. C'est pas la finalité, mais c'est le début pour que les gens puissent se parler, discuter. Puis une comédie, il faut quand même être capable de la jouer devant plein de gens, parce que avec 12 personnes dans la salle. Voilà, mais bon, depuis quelques temps, nous on a pas mal de monde, parce qu'on monte aussi des auteurs qui gardent toutes leurs forces, comme Brecht, comme Edmond Rostand, comme Jules Romain, et puis là, comme Dario Fo, qui lui garde encore plus sa force, parce qu'il est encore vivant. Et vraiment bien debout, hein. Je pense qu'il commence, quand même, ça commence à faire, mais il joue plus, mais il écrit encore. Quelqu'un qui approche de 90 ans, quand même, qui a toujours combattu une certaine forme de corruption politique. Voilà, on est en plein dans le débat en ce moment, hein. Les gens publient leur patrimoine, enfin, en même temps, ils peuvent publier ce qu'ils veulent, hein, on s'en fout. Moi, c'est pareil, hein. J'ai une Fender Telecaster, toute neuve, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est ridicule, tous ces effets d'annonce, de machin, tout ça. Enfin, l'homme est un loup pour l'homme, hein. C'est Brecht qui le dit. Hein. Tout ça est bien normal. Enfin, moi, je ne suis pas étonné. Et vraiment, Dario Fo, il a à la fois ce désespoir, cette certitude qu'ils sont tous pourris, qu'il n'y a rien à faire et tout ça. Et malgré tout, il continue à croire au petit peuple, aux gens de la rue, qui, eux, peuvent changer les choses, mais qui n'ont pas le pouvoir et qui n'ont pas l'occasion de le dire. Et dans cette pièce, il les fait parler. Voilà. Alors, c'est ses mots à lui, c'est pas forcément les nôtres, ça se passe en Italie, il y a des choses qui sont pas forcément très familières pour nous, mais globalement, je trouve que c'est quand même assez universel, quoi. Enfin, certainement plus que beaucoup de choses qu'on peut voir par ailleurs, qui sont souvent des expressions d'un sentiment personnel sur le monde. Moi, ce qui m'intéresse chez Dario Fo, c'est que c'est une écriture qui interroge ce qu'on a de commun, et pas... pas ce qui nous sépare, quoi, voilà. Ça parle de ce qui nous tient tous, voilà. Les gens, voilà, qui gagnent entre 1000 euros et 2000 euros par mois, et je pense qu'on est nombreux en France, voilà. Il y en a qui gagnent beaucoup moins, il y en a qui gagnent beaucoup plus, mais cette France moyenne, quoi, ouvrière, comme l'a connu le Val-de-Nièvre, elle existe encore. Le combat des Goodyear ou des Continental le prouve. Rien que dans la région, quoi.
Mais je veux surmonter tout seul! Tiens, c'est facile à comprendre, ça peut plus durer comme ça! Eh, il faut faire quelque chose! Mais on peut pas attendre indéfiniment la bonne volonté du gouvernement, l'initiative des syndicats et les belles paroles du parti. Tu sais, ces fils de pute, là, d'entrepreneurs, hein, quand ça les arrange. Ah, là, ça suffit! Arrêtez de travailler la terre! Venez tous au nord! Dans nos usines, émancipez-vous! Et puis, c'est la crise. À cause de la hausse des prix du pétrole. Et puis, les prix du pétrole dégringolent, mais l'essence, tu la fais toujours même plus qu'avant. Non, Giovanni, c'est à nous de bouger. Et il faut arrêter de s'en remettre à la hiérarchie, même pour aller pisser. C'est à nous de changer les choses. Et les choses sont en train de changer, tu sais. Ça change et comment?
C'est pas un personnage comique, Luigi? Non, si. Est-ce qu'il est dupe?
Dupe, c'est-à-dire?
Bah quand même, c'est un homme à qui on arrive à faire avaler le fait que sa femme est en train d'accoucher, alors qu'il s'est même pas aperçu qu'elle en était à 5 mois de grossesse, c'est ça, dans la pièce?
Non, ils sont pas dupes. C'est un principe de théâtre, c'est-à-dire que... Par exemple, quand Stéphane il fait le gendarme ou il fait le brigadier ou alors le père, au niveau du jeu, c'est assez grossier. Enfin, je veux dire, les personnages, entre guillemets, ne le voient pas, ça. C'est-à-dire qu'ils font comme si c'était normal, en fait. La pièce, elle est comme ça. Olivier la traite comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que Stéphane, dans son jeu, est assez extravagant. Il est formidable, d'ailleurs. Mais nous, on le voit pas. C'est comme si c'était normal, finalement, en fait. Donc non, on n'est pas dupe du tout, en fait. C'est la pièce qui fonctionne comme ça, je pense.
Est-ce qu'il y a des éléments sociaux qui te parlent dans cette pièce?
Je sais pas, je pourrais te répondre oui et non, quoi, en fait. Évidemment que ça me touche, quoi. Parce que moi, je suis révolté contre tout. Donc que ça soit la condition ouvrière ou que ça soit sur autre chose, il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Donc ouais, forcément, ça me touche, ouais. Après, moi je suis pas quelqu'un qui revendique, quoi, personnellement. Et j'ai jamais compris le militantisme et tout ça. Non, c'est quelque chose que moi j'arrive pas à comprendre. Tous ces jeunes par exemple qui vont au meeting, etc., etc. Je respecte, mais je comprends pas. Mais par contre, ouais, je suis révolté contre beaucoup, beaucoup de choses. Donc forcément, pour répondre aussi à ta question, forcément la pièce elle parle de choses qui traitent de ça, quoi. Donc forcément, ça peut que nous toucher, quoi. La condition ouvrière, etc.
Mais aussi la désobéissance civile.
Oui, Dario Fo, il en parle, oui. C'est important, ouais. Même son personnage du policier, qui est plutôt un policier qui en a marre de faire des rafles dans le quartier, enfin qui dit ces choses-là, qui tient un discours surprenant d'ailleurs pour un policier, en fait, finalement. Je pense que Dario Fo, quand il traite ce personnage du policier, c'est... En même temps, il est contre la répression, en fait, mais pour le service public, si tu veux. J'imagine que Dario Fo dénonce ça, la répression, quoi. Il parle de la répression et... Donc ouais, tout ça, c'est, de toute façon, c'est des sujets importants et puis qui touchent les gens. Ouais.
Ça fait maintenant presque 3 semaines que vous êtes donc en création à Flic Secours. Et ça fait aussi 3 semaines que vous vivez ensemble donc dans un gîte. La vie de compagnie, tu la vis comment? Tu y tiens comment et...
Bah, je sais pas... Tu vois, Olivier, le théâtre, c'est sa vie. Nous, c'est un peu pareil. Moi, je fais le théâtre par nécessité, quoi. Voilà. Tous ces moments-là qu'on passe ensemble, ça m'est nécessaire. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te répondre. Donc, les moments qu'on passe au gîte, ou alors en répétition, ou alors... c'est comme une nécessité, en fait. C'est ma cam. Louis Jouvet disait... que c'était l'abnégation pour le renouveau de soi. Donc l'abnégation dans sa vie de tous les jours. Bon, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, si tu... Enfin, moi, ça me parle quand même. Donc, quelque part, dans la vie de tous les jours, ben, voilà, c'est une espèce d'abnégation de soi. Bon, pas toujours, hein. Il y a des moments très... Mais finalement, la scène, c'est une espèce de... La scène, les répétitions, le fait qu'on soit ensemble, c'est un renouveau de soi-même. Voilà. C'est en ça que ça m'est nécessaire.
Est-ce que tu travailles souvent dans ce cocon, presque ?
Ça fait presque 20 ans, 15 ans, je sais plus exactement, qu'on se connaît avec Olivier, donc une espèce de fidélité comme ça. Donc après, moi, j'ai travaillé ailleurs, j'ai fait d'autres choses, mais c'est complètement différent. Ouais. On s'aime, quoi, je veux dire. Quand on s'aime, quand on travaille avec des gens qu'on aime, c'est autre chose. C'est encore mieux. C'est pas partout pareil, quoi. Moi, j'ai travaillé à Paris avec des metteurs en scène. Où là, l'ambiance, c'est pas la même, c'est complètement différent. Olivier, c'est autre chose, c'est une amitié, c'est une fidélité. C'est, enfin, le travail d'Olivier, il est vraiment formidable. Quoi. C'est quelqu'un de très lucide, très intelligent, sans concession, sur un discours sur le théâtre, auquel j'adhère totalement. Totalement, donc c'est que du bonheur, enfin, c'est... C'est une espèce de nécessité. Moi, je dis ça comme ça.
T'as pas choisi d'être acteur ?
Oui et non. Non, mais souvent, les acteurs racontent des choses. Ils ont toujours rêvé d'être acteur, etc., etc. Non, moi, non, pas du tout. J'étais un enfant difficile. Dans mon souvenir, c'est ma mère qui m'a inscrit au théâtre. Mais j'en ai rediscuté avec elle il n'y a pas longtemps. Mais a priori, c'est moi qui lui ai demandé. J'en ai pas le souvenir. Et puis quand je suis rentré au cours Florent, ça a changé ma vie, en fait. Moi, je dis que ça m'est tombé dessus, quoi. Voilà. Et une fois que ça m'est tombé dessus, ça m'était nécessaire. Pour une espèce de renouveau de toi-même, tu vois. J'exagère en disant ça, un renouveau de soi-même. C'est les grands mots. Mais c'est plutôt juste, je trouve, quand même.
C'est des sacs de riz que tu mets dans ton ventre ?
C'était le riz qui était dans les emballages dont on va se servir pour justement faire le faux riz qui va dans mon ventre. Donc le riz, c'est du coton et les pâtes, c'est de la mousse un peu plus dure.
Et voilà, tu es en train de révéler tous les secrets de fabrication du spectacle ?
C'est ça. Il n'y a plus de magie.
Et voler de la nourriture, parce que plus les moyens de la payer, c'est quelque chose qui te parle un peu ?
Oui, disons que ça me parle forcément parce que je viens d'une famille qui dit prolo, donc les difficultés de la vie, de se nourrir. Je l'ai vécu, par mes parents, toute ma famille. Donc ouais, ça me parle. Et puis ça parle plus encore ici, à Flic Secours. Et ça prend tout son sens, même si c'est en Italie et même si les personnages sont dans une autre réalité, on va dire, dans celle d'une industrie et puis du call center.
Margarita, c'est une fille qui a une vie relativement précaire. Est-ce que tu t'es inspirée de ce qui se passe ici pour créer ce personnage ?
Inspirée, non. Moi je cherche pas une psychologie, je me fais ma petite cuisine plus par le corps. Si les gens le lisent, tout ça, tant mieux. Maintenant, moi ce qui m'importe, c'est de faire passer déjà la comédie. Et puis aussi, si ça passe en même temps le message politique et civique, tant mieux. Je crois que je cherche d'abord les trucs physiques, après ça se nourrit, et puis ça se nourrit aussi avec les autres. Et puis c'est plus Antonia qui a le discours. Margarita, elle a plus, c'est une suiveuse, un personnage un peu timide, en tout cas qui s'affirme pas, ou alors que dans des moments de craquage, de stress, d'hystérie, parce que pression de la police, parce que pression des maris ou des patrons.
C'est aussi un personnage qui s'exprime beaucoup dans le corps.
Ouais, surtout avec les choix d'Olivier, où on a pas mal de gags visuels et physiques. Le travail de Stéphane, par exemple, c'est ce qui va le plus caractériser ça, mais Margarita, elle est entre les deux. Elle est entre le discours, qui est plus porté par Rémi et Marie-Laure, qui jouent Giovanni et Antonia, et peut-être Margarita, elle est entre les deux. Elle suit le discours sans le donner, et elle suit le physique sans trop en mettre. Voilà, c'est un personnage mesuré.
Beaucoup moins que celui de Michette, en tout cas.
C'est certain. Ouais, Michette, elle a pas trop de limites. Et effectivement, Margarita, elle est plus normée. Et Michette, elle ignore plus les normes. Donc, ouais, c'est différent. C'est différent.
Michette, c'est un des personnages que tu incarnes à travers un autre projet. Quel a été le premier lien avec la compagnie du Berger ?
Moi, j'ai rencontré Olivier au conservatoire. Il faisait un stage en tant qu'intervenant. Et à la suite de ma cinquième année au conservatoire d'Amiens, il m'a dit on monte le dindon. Si tu veux, il y a un petit rôle pour toi. J'ai dit bien sûr. Et voilà. Et là, c'est mon quatrième spectacle avec la compagnie du Berger. Le petit clin d'œil, c'est que quand on a monté Michette, avec la compagnie des Petites Madames, Olivier faisait une voix dans le spectacle. Il faisait Didier Boulard, une fausse pub radio.
Avec les productions de la Méduse.
Avec les productions de la Méduse. Et puis d'autres gens. En ce moment, la grande question qu'on se pose avec la compagnie du Berger, enfin, initiée par la compagnie du Berger, c'est comment travailler tous ensemble, toutes les compagnies et tous les artistes et techniciens. Pour l'instant, la meilleure réponse, c'est peut-être le véritable échange et de travailler tous ensemble et de se proposer et de créer. Et donc, si les productions de la Méduse donnent un rôle à Olivier ou même à d'autres, c'est juste un juste retour, mais c'est aussi un véritable échange. Et il y a d'autres gens qui vont travailler ensemble. Il y a plein de ponts, et si on fait des compagnies cousines, c'est très bien.
Un vrai maillage, quoi.
Ouais, et ça permet les rencontres, et si ces rencontres, elles portent leurs fruits, c'est tant mieux, et c'est certainement la meilleure façon de travailler.
Piano piano spariva la musica dolce per me. Una musica dolce suonava per sento.
Est-ce que c'est facile d'éclairer un appartement ?
Au théâtre, non, c'est pas facile. En fait, on joue malgré tout sur... faut que ce soit visible pour le public. Et on doit rendre visible un appartement qui n'existe pas, en fait. Ça, malgré tout, ça reste un décor. Donc non, c'est pas facile.
Et donc, tu as participé à la réalisation de cet appartement ?
En fait, donc c'est Noémie et Alexandrine qui font une proposition au metteur en scène, à Olivier. Et à partir de là, en fait, donc il y a des croquis qui sont élaborés, des dessins qu'on fait circuler. Voilà, chacun réagit. Et puis évidemment, moi, ça m'intéresse, puisque la matière première pour travailler, avant toute chose, c'est le texte. Et puis après, ce sont les éléments à éclairer, et au-delà des éléments, ce sont les comédiens qui vont évoluer dans cet élément. Donc là, la particularité, c'est qu'on n'a pas de changement de décor, etc. Donc il faut quand même faire évoluer un peu la lumière, tout en restant malgré tout dans une convention d'appartement, avec de temps en temps voilà des sorties en ville, etc. Donc on joue sur les plans en fait, voilà. Et puis là, dans l'espace dans lequel on crée, en fait, il y a pas de grille, on n'est pas dans un théâtre où habituellement il y a de l'accroche, etc. Donc il faut imaginer, il faut inventer des choses pour faire en sorte que ce soit pas trop plat en fait, c'est ça, qu'il y ait du relief.
Donc ça passe par des projecteurs, bon ça c'est assez normal, et puis aussi de la lumière sur scène.
Oui, alors après, moi c'est ce que j'appelle la lumière ludique, pour rendre en fait la convention en fait du couloir où on a des espèces de hublots, voilà, parce que là c'est ce sur quoi je suis en train de travailler, ça parle tout de suite en fait au spectateur, c'est-à-dire c'est pas ça qui va éclairer la scène, ce sont des projecteurs de théâtre, mais malgré tout le fait de mettre ce type de lumière, ça permet au spectateur de situer l'action, où elle va se passer. Parce qu'en fait, en lumière, voilà, on réfléchit sur l'unité de temps, de lieu et d'action. Voilà, donc l'action, c'est ce qui se passe au plateau avec les comédiens, etc. Et puis le texte, évidemment, et puis après le temps et l'unité de lieu. Voilà.
Et donc quelque chose d'assez nouveau, tu utilises un ordinateur pour gérer tout ça, alors qu'il y a encore quelques années, on utilisait des consoles.
Ouais. Alors en fait, ouais, ça fait quand même un petit moment que ça commence à être très utilisé dans le monde du spectacle, parce que ça offre en fait l'opportunité de ne pas avoir à re-rentrer une conduite quand on arrive dans un lieu où on ne connaît pas déjà d'une forcément le pupitre. Puis le temps d'expliquer, en fait, il y a des choses qui sont un peu, comme dans un mode d'emploi, en fait, des choses qui sont un peu compliquées. On vulgarise beaucoup le vocabulaire, même technique. Et donc, de temps en temps, même entre techniciens, on a du mal de temps en temps à se comprendre, entre éclairagistes, entre ingénieurs du son. Et donc, le fait d'arriver avec son propre matériel, ça a cet avantage, c'est qu'on connaît, quoi. Voilà. Et puis, c'est quelque chose de léger, et on peut même travailler dans le train, tout ça, si on a les cotes du théâtre, voilà. Garder des configurations qu'on retrouve ailleurs et on se dit tiens j'ai gardé ça parce qu'à chaque fois on fait évoluer les lumières malgré tout dans tous les lieux là où on passe, même si on joue dans une configuration bien particulière, c'est pas les mêmes hauteurs, c'est pas les mêmes dégagements, donc à chaque fois il faut revenir sur les choses. Donc l'ordinateur présente quand même ce gros avantage, voilà. Il enlève juste un petit peu d'humain, voilà. Mais on le retrouve ailleurs, c'est pas grave.
Et alors petit, le plus malin, celui qui rafle le plus et celui qui pique rien est un couillon. Tu veux que je te dise, moi je suis fier d'être un couillon dans un monde de voleurs et de salauds. Qu'est-ce qui se passe ici?
On fait les débardeurs, nous sauvons la patrie.
Ah bien essayé! Vous êtes en train de faire une razzia!
Tiens, qui voilà, le brigadier moustachu. T'as remarqué comme il ressemble au policier qui faisait le guet?
Ne bougez pas, vous deux! Lâchez ça! Déposez ces sacs ou je tire! Non, les lâches, les misérables! Ils ont foutu le camp, hein! Vous qui vous a donné la permission de toucher à ces sacs?
Je mets ça parce que j'ai froid à la tête.
En haute forme. C'est ton costume de croque-mort?
Pas le haute forme. J'aurai une cape. Plutôt Batman.
Et tu vas voler?
Normalement. Si tout se passe bien, je devrais voler. Peut-être même au-dessus des gens.
Et j'ai pas vu de système de poulies, de...
Non, mais on va demander beaucoup aux spectateurs à ce moment-là. Je pense que ça va être une expérience collective à partager et le spectateur va être mis à contribution. De toute façon, sans le spectateur, il n'y a pas de spectacle.
Tu es le personnage multifacette du spectacle ?
Non, je suis un peu l'histrion de cette bande de comédiens et qui vient plutôt faire avancer l'énigme, faire avancer le Schmilblick, faire avancer le spectacle. Donc en fait, c'est plutôt des interventions de relance, de rythme. Et effectivement, c'est un peu des interventions impromptues.
Et tu incarnes l'autorité, le policier, le gendarme?
Ah, exact. Oui, le policier, le gendarme, l'autorité. L'autorité, effectivement, c'est des rôles qui permettent ça. C'est-à-dire, c'est des gens à qui tu ne peux pas, à première vue, dire qu'ils ont tort. Donc, quand il arrive sur scène pour déclarer quelque chose, a priori, l'action fait qu'on est obligé de le croire et on fait avec.
Stéphane Piazantin, tu appartiens à la compagnie Les Gosses, une compagnie qui travaille depuis un certain temps avec la compagnie du Berger. À travers quel projet vous vous êtes rencontrés?
Avec Olivier, on se connaît depuis une vingtaine d'années. On travaille comme des comédiens le font au cours de leur vie, c'est-à-dire ils se rencontrent, ils travaillent un peu ensemble, que ce soit dans le cadre du Berger ou que ce soit à la compagnie Les Gosses. Ça se fait un peu en dehors de toute convention. C'est des moments qui se partagent où quelqu'un est instigateur, effectivement, mais ça ne participe pas d'une réflexion collective ou de choses comme ça. C'est, on est plutôt, de toute façon, sur le terrain du désir, de l'envie. Moi, c'est la première fois que je travaille avec Olivier, où lui est metteur en scène et moi comédien. Donc, on a plutôt travaillé ensemble, tous les deux comédiens sur scène. Sur Axel T aussi, une création de la compagnie des gosses. Voilà, voilà.
Est-ce que tu convertis encore les euros en francs ?
De moins en moins. De moins en moins. Et c'est bien. Et c'est très bien de pas trop faire ça. Sinon, on s'en sort pas. Et ça nous rend malade. Parce que, forcément, en France, ça paraît toujours énorme. Tu vas manger au Quick ou au McDo, n'importe quoi, tu t'en claques pour 10 euros. 10 euros, ça te fait rien. Puis tu reconvertis en francs, tu te dis, c'est pas possible, j'ai pas mis 70 francs pour manger un hamburger.
Do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, sol, si, do, ré, la, ré, la, ré, la, ré, la, sol, la, si, do.
Rémi, tu portes le Marcel à merveille.
C'est gentil, merci.
Et le velours aussi.
Ça, faut en parler avec la costumière. Non, non, mais c'est quand même les années 70, donc on essaie de retraduire un peu l'esprit de l'époque, mais au niveau vestimentaire, évidemment. Donc c'est un peu ça, le gros velours côtelé, les Marcel italiens de l'équipe d'Italie. Et j'ai même, normalement, il va arriver d'ici quelques jours, un boxer avec marqué Italia derrière, comme si c'était un slip des joueurs de foot, voilà. Parce que les mecs sont fans de foot, forcément.
Giovanni, c'est un homme qui est très attaché à la dignité ou à l'honnêteté, c'est ça ?
Exactement, c'est le prolétariat, mais digne. C'est-à-dire qu'il faut être honnête dans la vie. On vit, ils font du travail à la chaîne, hein. C'est les temps modernes de notre cher Chaplin. Et c'est des rythmes assez infernaux. Et en même temps, lui, il dit, voilà, dans la vie, il faut être honnête, il faut respecter la loi, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Il faut être syndiqué, il faut lutter pour avoir des avantages ou pas des avantages, mais pour améliorer les conditions, mais toujours dans le cadre de la loi et de l'honnêteté. C'est très important pour lui. Sinon, c'est la débandade, c'est la débâcle.
Et pourtant, dans la pièce, ça évolue.
Évidemment, parce qu'au final, les situations font qu'il est confronté sans arrêt au fait que son honnêteté ne paye pas, finalement. Puisque tous les gens autour font tout pour qu'il continue à vivre encore plus dans la misère. Il n'est pas au courant, mais sa femme a arrêté de payer le loyer, l'électricité, le gaz depuis au moins 2-3 mois. Et du coup, il s'est dit, mais même avec mon salaire, même avec ça, on s'en est pas sorti, on est expulsé. Donc au final, il dit, ça sert à rien d'être honnête, parce qu'on se fait avoir au bout du compte.
Est-ce que tu as déjà travaillé dans une usine ?
J'ai pas travaillé dans l'usine même, mais j'ai refait un boulot d'été où on repeignait des chaînes de montage, justement. Et on voyait des gens qui étaient en sous-sol et qui travaillaient sur des chaînes, comme ça. C'était pour l'usine Renault, je crois. Ils faisaient des plastiques de portes. Et donc vraiment ce travail de on prend un truc, on l'essuie, on le passe à côté, on en prend un autre, 8 heures par jour, je sais pas combien de jours par an, mais voilà. Et pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, c'est assez intéressant à regarder. On se dit, on n'aimerait pas faire ça, et pourtant il y a des gens qui le font, qui vivent comme ça.
Et donc tu joues du ukulélé ?
Alors ça, c'est une nouveauté. J'ai joué un peu de guitare étant plus jeune, et on m'a dit, puisque tu sais mettre des doigts sur un manche, tu vas nous faire du ukulélé. Et voilà, donc j'improvise un peu le ukulélé à la fin, voilà.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu du tableau qui est sur scène à la fin et autour duquel les personnages se regroupent ?
Alors ce tableau, je crois que c'est un tableau du début du siècle, qui en fait est un ensemble de paysans. Alors il paraît, que normalement si on le voyait de haut, ça représente l'Afrique. Alors c'est marrant, parce que c'est une espèce de foule qui avance comme ça, d'hommes, de femmes. On ne sait pas où ils vont, mais on sent qu'ils vont en groupe quelque part, peut-être pour protester, peut-être pour manifester, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est dans le mouvement. Et donc ça représenterait, vu de haut, l'Afrique avec Madagascar, donc c'est une espèce d'image, et ça représente ce qu'ils appellent, eux, le quatrième état, ce qu'on appelle aujourd'hui le quart-monde, hein, qu'on vit dans nos villes, dans nos campagnes aussi, avec des associations qui s'occupent de ça, avec de la pauvreté de gens qui sont bien de chez nous, et qui n'ont pas assez pour vivre, tout simplement. Donc ça représente un peu cette image-là.
Comment se termine la pièce ? Je ne sais pas si on peut en parler, mais...
Il faut venir la voir, déjà. Mais oui, la pièce, c'est un petit peu comme... je dirais comme si on rentrait dans ce tableau, comme si on était nous aussi des personnages de ce tableau. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on va être aussi figé que ce tableau ? Parce qu'on est amené à disparaître. C'est vrai que le monde ouvrier a énormément changé. Ces chaînes de montage ont disparu. Il n'y a plus des grandes usines avec des milliers d'ouvriers qui travaillent à la chaîne. Mais il y a quand même tout un monde ouvrier qui existe. Et qui, effectivement, même un monde paysan qui... au détriment des grosses multinationales, est en train petit à petit de disparaître. Et c'est ce qu'ils disent, nous aussi, on est peut-être en train de disparaître. Et la dernière phrase, c'est justement, chute, les monuments ne parlent pas, comme si eux étaient déjà une image du passé, comme si le prolétariat était déjà une image du passé, remplacée par on ne sait pas quoi, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de services, de petits boulots, précaires aussi, mais pas cette grande, je dirais, ces grands groupes de travailleurs qui travaillaient ensemble et qui pouvaient du coup protester ensemble, alors que là, tout le monde est un peu dispatché partout, tout le monde se retrouve un peu dans la merde, et chacun essaye de s'en sortir un peu tout seul. On verra ce que ça donne. Mais c'est un peu l'image de fin en disant c'est comme une image du, presque une image du passé, que le prolétariat tel qu'il était vécu à l'époque en tout cas. Même si ça existe encore aujourd'hui. Hein. On voit ce qui se passe à la télé, Goodyear ou autre. Je sais plus comment ça s'appelle, Florange. Voilà. C'est quand même, il en reste quand même. Mais on sent que même eux sont amenés à disparaître parce qu'on est en train de démanteler tout ça au profit de pays où la main-d'œuvre est moins chère finalement. Alors est-ce que le prolétariat européen est déplacé à l'étranger ou est-ce que finalement c'est les machines, comme on a toujours dit, qui allaient remplacer la main humaine? On ne sait pas trop.
Et nous voilà licenciés, expulsés et sans futur.
Voilà pourquoi cette peinture de nos aïeux a perdu de ses couleurs et de sa force. Et nous aussi, petit à petit, nous risquons de disparaître. Quelquefois, quand je passe devant, je me sens happé par cette toile, aspiré dedans.
C'est ce qui nous arrive à tous. On est aspiré jusqu'au cou.
C'est sûr, si on ne relève pas la tête, si on ne reprend pas courage, nous allons tous nous diluer petit à petit dans la peinture, comme une antique pièce de musée.
Pousse-toi un peu.
Laisse-moi un peu de place.
Je me sens un peu écrasé, qu'est-ce qui se passe?
Je ne vous vois plus.
C'est peut-être qu'une impression, mais je me sens un peu raide.
Ne poussez pas.
Laissez-moi respirer.
Mon Dieu, quelle foule.
Tout ça sombrit, non? J'ai l'impression de m'aplatir.
Je me sens plus.
Quel silence.
J'ai ton œil tout à coup.
Chut, les monuments ne parlent pas.
Le Berger donnera sa première le jeudi 2 mai à 20h30 au Picardia à Flixecourt et le vendredi 3 mai à 20h30 à la Maison du Peuple à Saint-Ouen. Vous les retrouverez également à la Comédie de Picardie du mercredi 15 mai au jeudi 23 mai ainsi que toutes les autres dates sur le site www.compagnieduberger.fr.